On envisage spontanément l'oubli comme un ennemi de la mémoire. Et pourtant, les scientifiques qui travaillent dans ce domaine montrent que l'oubli fait partie du bon fonctionnement de notre mémoire, une façon de trier dans la montagne de souvenirs qui nous parviennent à chaque instant. La mémoire individuelle, la mémoire collective, c'est le dossier de la Tête au Carré cet après-midi avec le regard croisé du neuropsychologue Francis Eustache et de l'historien Denis Péchanski qui ont participé ensemble à un ouvrage sur la mémoire et l'oubli. On en parle dans un instant avec vos questions dès maintenant sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux. Et puis à la une de la science aujourd'hui, les sèche-mains électriques qui seraient de vrais aérosols à microbes. La réponse du médecin Frédéric Salmann dans un instant avec notre docteur Dupagne. Violaine Ballet réalise cette Tête au Carré qui a été préparée par Lucie Sarfati et François Mercier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Francis Eustache et Denis Péchanski. Si j'oublie un événement ou des informations, spontanément, je vais m'inquiéter, je vais même peut-être me demander si je ne suis pas en train de développer une maladie de la mémoire. Or, l'oubli est étroitement lié, justement, Francis Eustache, à la mémoire.
C'est vrai que l'oubli a un peu mauvaise réputation, on pourrait presque dire ça. C'est un terme qui est connoté plutôt négativement. Alors qu'en fait, il faut plutôt voir un duo vertueux. Mémoire et oubli, et c'est cet ensemble qui nous permet de former des souvenirs, d'engranger des connaissances au fil du temps. Donc effectivement, il faut en quelque sorte réhabiliter l'oubli.
Voilà, des souvenirs personnels ou des souvenirs collectifs, c'est ce qu'on verra avec vous, Denis Péchanski, qui est historien. La mémoire, c'est au cœur même de l'histoire quand même, non ?
Bien sûr, et l'oubli, le tri est consubstantiel de la mémoire collective. C'est-à-dire que c'est une représentation, une appropriation du passé pour une construction identitaire. Mais on trie dans le passé pour cette construction-là.
La mémoire et l'oubli, donc, c'est aux éditions Le Pommier. On va en parler avec vous dans quelques instants, avec déjà les messages qui arrivent pour en discuter. Franceinter.fr et les réseaux avec le mot-clé « l'attaque ». Les sèche-mains électriques sont-ils des nids à bactéries ? C'est aujourd'hui à la une de la science.
Le pire, c'est les sèche-mains avec œil électronique. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme œil, ça capte rien. T'es comme un âne à passer tes mains sur l'engin, tu sais, à trouver le bon angle, la bonne inclinaison.
Voilà, le décor est planté. Bonjour Frédéric Salmann.
Bonjour.
Vous êtes médecin à l'hôpital européen Georges Pompidou. Bonjour à notre docteur Dupagne.
Bonjour Mathieu.
Avec une équipe anglaise de l'université de Leeds qui a récemment publié une étude dans laquelle ils affirment que l'air envoyé par les sèche-mains électriques propulserait les microbes dans toute la pièce et pourrait même favoriser des transmissions de maladies comme la gastro-entérite ou encore la grippe. Les sèche-mains électriques sont-ils vraiment mauvais pour notre hygiène, Frédéric Salmann ?
Alors, il faut partir du principe qu'il y a beaucoup de gens qui se lavent les mains pas très bien. Donc au lieu de bien se laver les espaces interdigitaux, de bien frotter, ça va être plutôt vite fait, bien fait et pas suffisant. Résultat des courses, il reste des germes sur les mains. Et c'est dommage parce que si on se lave bien les mains, on diminue de 30% les infections respiratoires et digestives. Alors je ne vous dis pas en période de gastro-entérite, c'est vraiment bienvenu. Les mains séchées, c'est très important, mais il faut bien les sécher. Alors, bien évidemment, le sèche-main électrique...
C'est formidable, cette invention, non, quand
même ? On se dit, tiens, c'est formidable.
Ben oui, très hygiénique, justement.
C'est hygiénique, et ben, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, vous avez le sèche-main, vous savez, blanc, qui est à hauteur de vos yeux.
Oui, dans celui qui démarre tout seul, d'ailleurs.
Ah, il démarre tout seul, et puis d'un seul coup, ça vous souffle en pleine figure, et ça souffle vos germes dans toute la pièce. Mmh. Vous en profitez, et l'entourage aussi. Alors, il y a d'autres sèche-mains électriques qui maintenant existent, où on met les mains dans une sorte de cuve.
Oui.
Alors, j'ai vu que c'est assez différent. Il y en a certains où on n'a pas l'air en pleine figure. Ceux-là, je veux dire, pourquoi pas, mais d'autres où l'air remonte à fond dans la figure, ce qui n'est pas terrible. Vous savez, moi, il m'arrive dans les toilettes de restaurant...
Racontez-nous, ce qui vous arrive dans les toilettes de restaurant.
C'est
intéressant.
C'est un lieu terrible parce que je suis partisan du lavage des mains. Et parfois, je regarde l'environnement... Le vieux torchon mouillé.
Ah, ça, c'est épouvantable.
Attendez, c'est un aéroport à microbes. Donc, je vais recontaminer mes mains seront pires une fois séchées. Et pire, la clanche pour sortir, vous mettez votre main et tout est gâché.
Oui, c'est une zone radioactive, quoi, finalement,
ah,
les toilettes.
C'est terrible.
Alors, il ne faut pas y aller.
Quand je vois que je ne peux pas bien me sécher les mains ou sortir, ou alors en jouant avec le coude, je veux dire, il faut être vraiment très souple là, par moment, et ben, il reste le petit gel hydroalcoolique de temps en temps pour frotter, oui. S'il n'y a pas la solution.
Qui a été aussi controversé d'ailleurs. Hein. On a parlé de ce gel comme étant justement un tueur de flore bactérienne.
Alors, ce petit gel, je veux dire que c'est utile aussi quand on n'a pas de l'eau, du savon, une serviette propre. À condition de l'utiliser pas pour bénir ses mains, mais pour frotter l'huile de coude, ça marche. Mm-hmm. Donc de bien frotter les mains avec, c'est comme si vous frottez avec une serviette, vous allez finir un petit peu le lavage, et des mains sèches, c'est vraiment un non-vecteur de germes, c'est vraiment important.
Bon, alors si je résume donc les sèche-mains électriques, parce que c'est ce qui nous intéresse, donc ceux qui propulsent l'air dans le visage, il faut éviter.
Ah, il vaut mieux se sécher les mains à l'arrière de sa chemise ou sur ses chaussettes.
Et là, c'est mieux.
Je préfère de loin.
Sur ses chaussettes, mais n'importe quoi quand même. On fait de la gym, oui, c'est ça.
On fait de la gym, c'est bon pour la santé. Ouais.
Donc on préfère ceux dans lesquels on peut mettre nos mains comme ça, de façon verticale.
Une espèce de bac qui existe, à condition qu'il y ait des modèles qui ne ressoufflent pas dans la figure. Bon. Ça, c'est très important.
Docteur Dupin, ça vous inspire les sèche-mains électriques?
Oui, bien
sûr. Ça vous passionne?
Écoutez,
hein,
on n'a jamais fait mieux que la serviette en papier à usage unique jetable qu'on tire, avec laquelle on s'essuie les mains et qu'on met dans la poubelle derrière.
Ouais. Alors, c'est pas du tout écolo.
Bon. Voilà, un bilan carbone pas bon. Oui. Moi, j'ai une technique toute simple que je conseille, c'est d'avoir un mouchoir en tissu dans sa poche et puis on se sèche les mains avec son propre mouchoir qui finalement fait qu'on ne partage pas ces microbes. Et en fait, je serais même tenté de dire qu'on peut sécher les mains un peu comme on veut, à condition de ne pas toucher la porte des toilettes en sortant. Parce que, en fait, c'est là que se trouvent les sales bêtes, si vous voulez. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ne se lavent pas les mains. Et donc, bien sûr, ces histoires de germes qui volent, c'est intéressant, mais il faut surtout arriver à ouvrir la porte des toilettes avec son coude, et surtout pas avec ses mains, de façon à ne pas annuler tous ses efforts d'antiseptie en sortant des toilettes.
Ouais, mais disons, on est bien avancé avec vous, en tout cas.
Vous savez, quand on sait qu'une personne se met deux fois par heure les mains à la bouche, ce que vous avez sur les mains, vous le retrouvez dans la bouche.
Oui, mais est-ce que c'est grave pour autant? On en a partout des micros.
Attendez, épidémie de gastro-entérite, tout le pays est sur le pot. Oui. Alors que dans des pays comme le Japon, ce n'est pas le cas. D'abord parce qu'ils ne se serrent pas la main, ils joignent les mains, ils s'inclinent.
Ah, mais c'est le royaume des toilettes, le Japon.
Et les toilettes du Japon,
c'est extraordinaire.
C'est le bonheur.
Voilà. On en rêve.
Vous êtes lavé, séché.
Tout.
Gratuitement.
Il suffit d'appuyer sur le bouton.
En plus, il y a de la musique.
C'est magnifique.
C'est important, cette histoire de main, parce que c'est vrai que les mains sont des vecteurs de maladies très importants, hein, qu'on sous-estime souvent, que ce soit pour les maladies de type gastro-entérite, mais même pour la grippe aussi. Et cette habitude absolument stupide de serrer la main tout le temps, si vous voulez, c'est la bénédiction pour les microbes. Il faut absolument arrêter ça. Je connais des infectiologues qui refusent de serrer la main des gens. Ils font un petit salut à la japonaise, mais c'est absurde de serrer la main de tout le monde.
Pasteur ne serrait pas la main des gens, d'ailleurs.
Ah, je savais pas.
Il refusait catégoriquement.
C'est logique, c'est complètement
obsédé. Même temps. Il baignait dans les microbes.
Il savait de quoi il parlait.
Il nous a fait gagner des années de vie en bonne santé, Mais qu'est-ce qu'il avait raison? Non, il faut changer un peu notre style, surtout en période, parce que ça va être la gastro-entérite de Noël, ça va être la grippe. Je crois que c'est le bon moment pour bien se laver, bien se sécher les mains.
Bon, et faire un peu de gym, donc, en se séchant.
Avec les chaussettes. Les chaussettes.
Voilà,
exactement. Les chaussettes hautes, parce que les sockets, c'est compliqué.
Alors, il y a des campagnes régulièrement qui sont organisées pour nous inciter justement à nous laver les mains. Il y a une chanson créole. Tiens, que Violaine Ballet a retrouvé pour nous. C'est un groupe de Guadeloupe qui a proposé cette chanson à l'occasion justement de la journée mondiale hygiène des mains. Je voudrais vous faire écouter un petit extrait de cette chanson charmante. Voilà, on a le clip sur le site de la Tête au Carré si vous souhaitez avoir les consignes.
C'est traduit.
Il y a les sous-titres. Il faut se laver les mains combien de fois par jour, docteur Salman, réellement?
Avant de passer à table et en sortant des toilettes. Et vous savez, en hiver, il y a quelque chose qui était à la mode autrefois qui est formidable, c'est les gants. Les gens sortaient avec des gants par rapport au métro, etc. Ouais. C'était bien, c'était élégant, c'était chic. Et en même temps, ça évitait bien des choses.
Donc vous voulez relancer la mode du gant?
Je souhaiterais relancer la mode du gant. C'est chic, c'est classe et en même temps, ça protège.
Ben vous venez de le faire ici, dans la tête.
C'est complètement logique. Hein. Si on veut se protéger des maladies infectieuses, porter des gants dans les transports en commun, par exemple, ce n'est pas de l'obsessionnel, hein, c'est une réalité, ça correspond à quelque chose. Ou alors, éviter absolument de se toucher les yeux, le nez, la bouche, tant qu'on est dans les transports en commun et dès qu'on arrive chez soi, se laver les mains.
Ouais. Donc vous êtes plutôt d'accord avec cette étude anglaise, sur les sèche-mains électriques?
C'est très intéressant parce que ça montre que les gens s'intéressent à l'hygiène. Et l'hygiène, c'est notre meilleur bouclier pour éviter d'être malade et éviter de consommer des antibiotiques à tout va. Je veux dire que quelque part, c'est ce que je regrette, c'est que l'enseignement d'hygiène a disparu à un moment donné parce qu'on s'est dit, les antibiotiques, c'est plus la peine. Et je veux dire que remettre l'hygiène au goût du jour, c'est franchement formidable pour la santé.
Frédéric Salman, vous êtes l'auteur du livre Le meilleur médicament, c'est vous, paru chez Albin Michel l'année dernière. Merci d'être venu dans la Tête au Carré. Merci, docteur Dupagne.
À bientôt.
À bientôt. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la sonde Rosetta vient de nous délivrer une première image en couleur de la comète Chury qui apparaît brunâtre sur cette photo. Attention toutefois parce que ce cliché est un assemblage de photos classiques en noir et blanc et d'images traitées par ordinateur. Elle ne correspond pas à la véritable couleur de la comète qui serait plus proche du gris sombre, mais vous pouvez quand même voir ce cliché sur le site de la Tête au Carré. Une nouvelle galerie pour Lucie et ses compères, le Musée National d'Éthiopie a ouvert ses portes à Addis Abeba hier. Cette nouvelle exposition permanente s'étend sur plus de 360 mètres carrés et accueille de nombreux fossiles, incluant des reproductions et des originaux, dont pour l'inauguration le squelette de la célèbre Australopithèque Lucie, ou encore celui d'Hardy, le plus ancien squelette dominidé connu à ce jour, vieux de 4,4 millions d'années. Coup de chapeau à Anne de Jean Assema, qui est la lauréate du Grand Prix de l'Inserm, le prix le plus important dans le domaine de la santé et de la recherche médicale. Anne de Jean Assema est récompensée pour l'ensemble de ses recherches sur les mécanismes moléculaires et cellulaires du cancer chez l'homme. Elle a notamment établi le rôle mutagène du virus de l'hépatite B dans le cancer du foie ou le rôle de la forme active de la vitamine A dans certains cancers. Et puis en fin d'année 2014, eh bien ce sera l'année la plus chaude. L'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, a annoncé hier que les 10 premiers mois de l'année ont été les plus chauds jamais enregistrés. Le 21e siècle rassemble déjà 14 des 15 années les plus chaudes depuis 1880. La mémoire et l'oubli, c'est dans un instant, c'est le dossier aujourd'hui de la Tête au Carré.
Sometimes you gotta dig in the dirty to get what you need. What I need is you. Oh, and I'm going all out to be with you. Striking inside of you. Does your thunder roll? Does the fire keep you cool? Oh, come a hurricane is coming for you. Yeah, bang bang, I want it. Shoot me down and I want it. When I tell him that I want it, he says lie.
Bang Bang Massigré à l'instant.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Francis Eustache, vous êtes neuropsychologue, Denis Péchanski, historien. Vous participez tous les deux avec le philosophe Bernard Stiegler et le neurobiologiste Robert Jaffard à un ouvrage, donc Mémoire et oubli, qui paraît aux éditions Le Pommier. La mémoire et l'oubli, ça peut sembler deux choses contradictoires. Eh bien non, on l'a vu, on a commencé à le voir ensemble il y a quelques minutes. On va parler de mémoire individuelle, mais aussi de mémoire collective, avec les messages des auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Francis Eustache, donc vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous dirigez à l'Université de Caen, une unité de l'INSERM dédiée à l'étude de la mémoire humaine et de ses maladies. Et vous êtes aussi président du conseil scientifique de l'Observatoire B2V des mémoires. Denis Péchanski, vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS et responsable scientifique de l'équipement d'excellence Matrice. C'est une plateforme, on va en parler avec vous. Vous êtes également président du conseil scientifique du Mémorial de Caen et du conseil scientifique du Mémorial du camp de Rivesaltes. Francis Eustache, justement, ce livre, c'est le fruit d'échanges entre scientifiques, des échanges qui sont nés au sein du laboratoire B2V des mémoires.
Exactement. C'est d'abord un séminaire qui nous a réunis sur ce thème, mémoire et oubli, qui est un thème totalement transversal, qui intéresse certes les historiens, les neurobiologistes, les philosophes, les spécialistes d'intelligence artificielle, et puis les psychologues, les neuropsychologues. Et le but de cet observatoire B2V, c'est pas simplement de faire cohabiter des scientifiques, des disciplines, mais c'est d'essayer de trouver un langage commun et un concept commun et un programme de recherche commun. Ouais. Et ce thème mémoire et oubli, c'est une première aventure, mais il y en aura d'autres, et il y aura d'autres écrits qui suivront d'autres séminaires.
Denis Péchanski, en tant qu'historien, vous aviez déjà travaillé avec des neuroscientifiques ?
C'est à l'origine de mon programme dont vous parliez là. C'est effectivement de partir de l'idée qu'il était impossible de comprendre pleinement la mémoire collective, ou ce que j'appellerais la mémoire sociale, si on ne prend pas en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire. Et inversement, l'imagerie a très bien montré qu'il est impossible de comprendre ces dynamiques cérébrales si on ne prend pas en compte l'input du social. Et donc, je partais de l'hypothèse de la nécessité de cette approche transdisciplinaire, c'est-à-dire oui, la construction commune de l'objet. Et depuis quelques années, c'est ce qui nous a fait nous rencontrer, Francis Eustache et moi-même. Je travaille avec des neuros et avec des questionnements qui... par exemple, pour un historien du très contemporain, sont très perturbants. Hein, quand on travaille avec des témoins et que les neuros disent que les zones de l'anticipation dans le cerveau sont les mêmes que les zones activées pour la mémoire, oui, alors où se situe le témoin? Oui. Quelle parole il donne? Une sorte de futur antérieur, il se situe dans le passé de l'événement, dans le présent de son récit ou dans l'horizon d'attente du moment où il parle.
Oui, on va en parler avec vous, cette mémoire du futur, Francis Eustache. Hein. C'est assez troublant d'ailleurs d'imaginer une mémoire du futur, parce qu'on voit que les deux mécanismes, la mémoire du passé et celle du futur, fonctionnent à peu près de la même manière. Hein.
Il y a une grande revue scientifique internationale en 2007 qui avait choisi un article qui s'appelait « Le cerveau prospectif ». Le cerveau, il est avant tout prospectif. Oui. Certes, il se tourne vers le passé, ce qui est un exercice difficile. La mémoire est tournée vers le passé, mais elle est avant tout tournée vers le futur, vers l'anticipation. Et elle s'alimente évidemment de l'autobiographie, de la mémoire qui se construit au fil du temps. Mais notre mémoire, elle est avant tout anticipation de l'avenir.
Ouais, mais le terme de mémoire du futur, il est un peu troublant quand même.
Il est un peu troublant. Hein, c'est un petit peu comme le duo mémoire et oubli. Mais en fait, il est extrêmement juste. Je pense que la mission principale de la mémoire, c'est bien de s'orienter vers le futur et de préparer le futur.
Ouais, Denis Péchanski.
C'est un faux oxymore. Ouais. Tout simplement, comme mémoire et oubli.
Matrice, qu'est-ce que c'est exactement alors, cette plateforme ?
Alors, c'est une plateforme technologique qui a été acceptée dans le cadre du grand emprunt porté par le gouvernement à partir de 2008 et qui vise à comprendre mieux l'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective.
C'est-à-dire concrètement, par exemple ?
Alors on est en train de faire plusieurs expérimentations. D'abord des études comparatives entre le discours qui serait le discours porté par les médias, ben voilà, les journaux télévisés depuis 40-50 ans sur la Deuxième Guerre mondiale, depuis 10 ans ou un peu plus de 10 ans sur le 11 septembre 2001, puisque c'est nos deux thématiques focus. Et on essaye d'extraire ces journaux, le vocabulaire de ces journaux télévisés et les comparer au vocabulaire utilisé par les témoins, par le Bulgum Pekus, et voir comment les deux interagissent. Et de la même façon, on a un deuxième grand champ d'expérimentation au mémorial de Caen, qui est l'étude des comportements des visiteurs de mémoriaux, mais là, pas du point de vue de ceux qui construisent le parcours historique.
Ceux qui viennent visiter.
Et là, avec des eye trackers, donc des lunettes avec double caméra, une vers l'objet, l'autre vers l'œil, ce qui fait qu'on suit le regard très précisément. Et puis des capteurs électroniques qui permettent de localiser, de façon anonyme, exactement les personnes, les visiteurs de mémoriaux, ce qui permet, couplé avec des questionnaires, de repérer ces comportements. Mais ça nécessite des questionnements croisés, et pas simplement le questionnement d'historien.
Qu'est-ce que ça peut apporter, justement, ce type d'expérimentation sur le travail de la mémoire, Francis Ostage ? Vous êtes de Caen, je le rappelle, donc évidemment, ça vous intéresse au premier chef.
Je suis de Caen, je suis normand, et j'ai la chance de travailler avec toute l'équipe de Denis Péchanski, et je pense qu'on est en train de construire quelque chose d'original. Je pense de vraiment original.
Et qu'est-ce que vous essayez de savoir, justement, par ce type d'expérimentation ?
Le mémorial de Caen, Matrice, qui est installé dans le mémorial de Caen, c'est une plateforme technologique qui peut être utilisée à différentes fins. Le programme qui unit nos équipes, l'équipe de Denis et mon équipe, c'est un travail qui porte sur les interactions entre mémoire individuelle et mémoire collective. En quelque sorte, en schématisant un petit peu, les neurobiologistes, les neuropsychologues, depuis longtemps, ont travaillé essentiellement sur la mémoire individuelle. Et on a fait des progrès considérables sur les régions qui sont impliquées dans la mémoire, les réseaux maintenant, comment différentes régions interagissent, sur un plan à la fois des systèmes généraux du cerveau, et puis également sur un plan beaucoup plus moléculaire, beaucoup plus petit, en quelque sorte, le grand et le petit. Mais on était dans une dynamique strictement individuelle. Les historiens, de leur côté, les historiens et les sociologues travaillaient sur une mémoire collective qui se construit là aussi au fil du temps avec des phénomènes de rehaussement, des phénomènes d'édulcoration de certains aspects de la mémoire. Et nous, neuropsychologues, nous décrivions des mécanismes en fait assez proches. Mais chacun avait travaillé en quelque sorte de son côté. Aujourd'hui, nous avons les outils, cette plateforme technologique, et nous avons de plus en plus des concepts et un langage commun. Et il a fallu cette période qui est une période difficile parce que chacun campe sur ses certitudes. C'est très pratique d'avoir un vocabulaire, on enseigne le vocabulaire aux étudiants. Et donc, ce n'est pas moi qui ai raison, ce n'est pas Denis qui a raison. Et il faut construire quelque chose en commun, il faut qu'on construire.
Donc là, vous allez loin parce que vous allez dans le regard justement des gens qui viennent visiter ces lieux. Alors, quel enseignement ? Qu'est-ce que vous essayez de savoir justement sur cette mémoire collective, Denis Péchanski ?
Comment ça fonctionne ? Comment il se fait l'interaction entre les deux et comment le regard individuel se construit du regard collectif, d'analyse collective, et inversement, comment le collectif se nourrit des regards individuels. Et quand un neuroscientifique me dit « Attention, il y a deux circuits différents dans le cerveau, celui qui renvoie directement à l'émotion, donc à l'amygdala, le siège là, de l'émotion, du pathos, de la victime, et qu'on a un deuxième circuit qui renvoie au cortex singulaire et qui, derrière, on a la rationalité, l'action, l'intellection. Si on a ces deux registres-là, pour un visiteur de mémorial, c'est essentiel. Qu'est-ce qu'on va activer quand on est directeur de mémorial ? On va activer plutôt l'appel à l'émotion, au pathos. Quand on montre une image, on la montre en grand, en petit. Qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce qu'on fait le pari de l'intelligence ? Ou bien l'émotionnel, strict, avec l'absence de toute clé d'analyse, de toute clé d'intellection. Je vais vous raconter une anecdote. On travaille avec le mémorial du 11 septembre qui s'est ouvert en mai dernier et qui devrait raconter l'histoire de 9/11 et puis de l'écroulement des tours. Il y avait une salle, un espace de préfiguration. Pendant des années, elle était ouverte. Et là, on rentrait là-dedans. Il y avait un mur immense avec sur le mur de la projection en boucle de l'histoire de ces avions qui entraient dans les tours qui s'effondraient, etc. Ça durait 5-10 minutes et puis on recommençait. À côté, il y avait une table où il y avait les bouquins très très bien fait, qui expliquait le phénomène. À part 2-3 intellos new-yorkais ou parisiens, personne n'allait évidemment sur la table. En revanche, tout le monde était scotché, avec effet de sidération et émotionnel. L'amygdala direct, on sortait de là, charge émotionnelle. Vous pouvez m'expliquer le 11 septembre ? C'est terrible, terrible, ouais, c'était terrible. Voilà. Alors c'est ça fait partie évidemment des clés pour construire et pour un mémorial et faire appel aux réactions à l'individu, parce qu'on a l'émotionnel, on a le cognitif. qu'est-ce qu'on fait avec cette dualité-là ?
Allez, beaucoup de messages des auditeurs, dans différents domaines d'ailleurs, hein, de cette mémoire très, très complexe, très multiple, hein, comme on le verra aussi avec vous. Bernard demande, nous dit ceci, « Quand j'étais en terminale, j'ai eu comme sujet de rédaction « Que deviennent nos souvenirs quand nous n'y pensons plus ?» Et je n'ai pas su quoi répondre, dit Bernard, et aujourd'hui non plus d'ailleurs, Francis Eustache.
Alors en fait, le devenir de beaucoup de nos souvenirs, c'est de s'éteindre progressivement, c'est de disparaître. C'est un petit peu triste de répondre ça, mais c'est vrai que nous avons par exemple beaucoup de souvenirs de ce qui s'est passé hier, et dans quelques jours, eh bien, une grande partie de ces souvenirs va totalement disparaître. Et ça, c'est la première réponse qui porte sur un nombre très très important. En pourcentage, c'est peut-être 80-90% de nos souvenirs qui vont s'éteindre. Et puis d'autres vont vivre leur vie. Ils vont se modifier au fil du temps. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont se modifier. Ils ne vont pas rester comme photocopiés, comme dessinés de façon très stricte. Ils vont se modifier, ils vont s'incorporer à d'autres connaissances. Certains vont se transformer en connaissances, c'est-à-dire que notre esprit-cerveau va prendre la substantifique moelle de ce qui s'est passé pour l'incorporer à d'autres connaissances. Mmh. Donc, notre mémoire va être avant tout des connaissances, des savoir-faire et des connaissances, et puis, un petit peu comme des cerises sur le gâteau, quelques éléments de souvenirs qui sont souvent des moments emblématiques de périodes de notre vie ou qui sont également à des jonctions, à des périodes de transition de notre vie et qui vont nous permettre de donner cet aspect continuum dans notre vie. C'est-à-dire qu'on peut retracer très simplement notre grand itinéraire. Et là, les souvenirs jouent un rôle clé dans cette continuité au fil du temps.
La mémoire et l'oubli, c'est le thème de notre dossier dans La Tête au Carré. On se retrouve dans un instant pour en parler. Et les messages, bien sûr, qui arrivent pour vous, juste après Patti Smith.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Tonight.
Un neuropsychologue et un historien discutent cet après-midi au micro de la Tête au Carré, Francis Stache et Denis Péchanski, autour de ce thème de la mémoire et de l'oubli. C'est en tout cas le titre de ce livre qui paraît donc aux éditions Le Pommier, et vos messages très nombreux qui arrivent. Jean-Paul nous dit ceci, on parle beaucoup des maladies de l'oubli, Alzheimer par exemple, mais dans le fond, Francis Stache demande Jean-Paul, est-ce qu'il existe des pathologies inverses, des maladies d'hypermémorisation qui entraîneraient également des souffrances ?
Oui, il existe ce qu'on appelle maintenant l'hypermnésie autobiographique, qui n'a rien à voir avec l'hypermnésie qu'on voit au music hall des personnes qui apprennent des longues séries de chiffres. C'est très différent. Mm-hmm. Ce sont des personnes, alors c'est une pathologie qui a été décrite par des collègues américains, ce sont des personnes en fait qui ont cette difficulté à transformer un souvenir en une connaissance. C'est-à-dire que beaucoup de nos souvenirs deviennent progressivement des connaissances, s'incorporent à nos connaissances antérieures. Et les personnes en fait, qui sont victimes de ce syndrome, certainement neurodéveloppemental, oui. Hein, donc c'est un syndrome qui commence très tôt chez l'enfant, eh bien, n'ont pas cette capacité qui nous semble une évidence, vous voyez, à savoir que nos souvenirs se transforment en connaissances. Et d'ailleurs, le début de cette histoire, c'est très étonnant, c'est une femme qui a écrit à des collègues américains en disant voilà ce qui m'arrive, et nos collègues américains ont tenu compte de cette lettre et ont contacté cette personne, et le premier article paru contient cette lettre de cette patiente. Vous voyez, c'est une histoire médicale un petit peu particulière. Alors en fait, l'hypermnésie,
ça doit faire terriblement souffrir les gens, non?
Oui, ça les fait.
C'était une sorte d'encombrement permanent.
Il y a une grande souffrance, et en fait, ce que font les personnes, c'est qu'elles essaient de construire tout de même leur récit de vie, le grand récit des historiens, mais cette fois-ci personnel, leur continuité, en maintenant pour chaque jour quelques souvenirs. Alors, par exemple, ils vont maintenir qu'aujourd'hui, il y a eu cette agression dont on parle dans la presse, etc. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que 10 ans plus tard, si on interroge la personne sur ce qui s'est passé en datant le jour d'aujourd'hui, eh bien, la personne va vous dire le souvenir. Ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire, sauf pour des événements tout à fait extraordinaires, comme le 11 septembre, vous voyez, mais qui sont devenus des jours historiques. Mmh. Et donc, cette hypermnésie, ce côté tout à fait extravagant, extraordinaire, en fait, ça dénote un contre-coup, en quelque sorte, une contre-attaque de la mémoire pour essayer tout de même, bon gré mal gré, de construire un récit qui ne se fait pas de façon, entre guillemets, automatique, comme ça se fait chez tout un chacun.
Denis Péchanski.
C'est Borges qui gagne contre Dali. Dali a peint ce qu'on appelle habituellement, moi je l'appelais toujours comme ça, les montres molles, vraiment en 1931. En fait, ça s'appelle la persistance de la mémoire. Et il écrit à côté, je rêve de pouvoir me souvenir de tout. Alors que Borges fait une nouvelle avec Founès, et Founès meurt en fait de devoir se souvenir de tout. Ouais. En fait, il faut trier. Et ça renvoie aussi à une autre pathologie qui est le traumatisme au sens strict du terme. Les psychanalystes, alors une autre composante dans les disciplines, viennent, quand je discutais, je parlais de mémoire traumatique, je dis, ils me répondent, t'es bien gentil avec ta mémoire traumatique, mais le problème, c'est que le traumatisme, pour nous freudiens, c'est la présence du passé comme présent et envahissant tout le cerveau comme présent, et donc il n'y a pas de place pour la mémoire. Et si on veut vraiment faire de la place pour la mémoire, faut un processus de refoulement plus ou moins bien réussi, et après on a de la place. Mais si c'est refoulé, si le trauma est refoulé, il n'est plus trauma. Donc là, c'est très intéressant de croiser les approches et les disciplines, y compris donc la littérature dans ces qui ils ont, comme d'habitude, les artistes ont sentent y compris les choses les plus pointues de la science.
Vous citiez le 11 septembre, Francis Stache. Qu'est-ce qui se passe justement dans notre cerveau au moment d'événements tels que celui-là? Pourquoi est-ce qu'on imprime autant, et pourquoi est-ce que cette mémoire collective, là, on sent bien qu'il y a une cristallisation autour de l'événement et dans notre cerveau même?
Alors, le 11 septembre, on a tous perçu que c'était un moment très important. Donc ça s'inscrit dans ce qu'on appelle les souvenirs flash. On a l'impression de mémoriser l'événement. Et on a de ce fait une espèce de certitude. Parce qu'on se retrouve dans le moment où on a vécu la scène. On sait où on était. Et donc on s'inscrit dans une certitude. Et c'est là que notre mémoire individuelle nous trompe. On est tellement sûr qu'on a l'impression de rappeler un événement tel qu'il s'est passé au moment. Et en fait, c'est là que la mémoire collective intervient. Pendant le jour du 11 septembre et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Et beaucoup de connaissances nouvelles ont été acquises sur cet événement du 11 septembre, mais ce sont des connaissances que nous n'avions pas le jour du 11 septembre. Le fait que ce soit Aïda, etc. Enfin, tout. Des tas d'éléments qui ont été intégrés par la suite. Et donc, c'est un très bon exemple de la nécessité de croiser ce qui est du ressort de la mémoire collective, de cette mémoire qui se construit via les médias, via les intérêts généraux des pays, etc., et notre mémoire individuelle, notre mémoire esprit-cerveau. Puisque ce que je vais vous dire du 11 septembre aujourd'hui, eh bien, c'est la résultante des interactions qui se construisent en permanence entre ma mémoire individuelle et cette mémoire collective.
Donc il y a une superposition au fond de ces deux mémoires quasiment ?
Il y a plus qu'une superposition. Il y a une interaction au jour le jour entre ma mémoire, mémoire qui a certaines caractéristiques, selon mes intérêts personnels, selon mes aspirations, etc. Et puis cette mémoire collective qui se construit également parce qu'elle a aussi son propre sens. Donc l'exemple du 11 septembre, c'est un exemple mondial, mais on peut mettre la focale à différents niveaux du groupe. Ça peut être un intérêt dans un groupe restreint, vous voyez, une famille, un groupe d'amis, ça peut être au niveau d'un pays, au niveau d'une communauté. Et la mémoire, c'est vraiment bien cela. C'est l'interaction entre ces deux grands systèmes qui se construisent de façon interactive. Et c'est tout à fait étonnant que la science de la mémoire, jusqu'à une date récente, soit passée à côté de cette idée qui est absolument fondamentale. Et donc la science de la mémoire de demain, et nous commençons à la construire, c'est une science transdisciplinaire, nécessairement transdisciplinaire.
Allez, autre exemple justement pour parler de cette mémoire collective. L'allocution de François Hollande, c'était au Mémorial de Caen le 6 juin 2012. Il évoque la mémoire et on commente juste après avec vous.
La mémoire se définit par la capacité de nous élever tous ensemble, au-delà de nous-mêmes, pour que la mémoire devienne histoire. La mémoire doit trouver encore les mots quand les voix se sont éteintes. Cet enjeu de la poursuite, de la continuité, de la transmission, c'est celui de la génération qui arrive.
C'est important pour moi parce qu'énormément de personnes sont mortes, plus de 50 millions, donc ce qui a été assez horrible. Donc on doit se souvenir pour éviter de recommencer et pour ces personnes mortes, je ne suis pas sûr qu'elles aimeraient qu'on les oublie au fond de leur tombe.
La mémoire n'est pas un sentiment, une attitude, un état d'esprit, c'est un travail, c'est une politique et j'en suis désormais le garant. Je vous remercie pour votre accueil et votre présence.
Voilà, en 2012, François Hollande au Mémorial de Caen. Denis Péchanski, comment justement un événement entre dans la mémoire collective ? Comment ça se passe ?
Et j'en suis le garant.
Ouais.
Et j'en suis le garant. Président de la République qui dit qu'il est garant
de la mémoire,
de l'entrée de la mémoire et du respect de cette mémoire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que, véritablement, ça fait partie de son pouvoir spécifique comme président de la République. Et là, c'est dire aussi l'importance de l'histoire et de la mémoire en France. Hein.
C'est alors l'événement, comment il entre, alors, justement, pour compléter ce qu'on se disait tout à l'heure.
Oui, on voit pour le 11 septembre, mais c'est les conditions de la mise en récit mémoriel. Ce que j'appelle les conditions de la mise en récit mémoriel. Pourquoi certains événements sont acceptés, entrent comme éléments structurants de la mémoire collective, et pourquoi d'autres n'y entrent pas. Pourquoi d'autres n'y entrent pas, on va prendre des exemples. Puisque Francis Eustache et Normand, les bombardements alliés, ils ont fait beaucoup plus de morts en Normandie que toute l'occupation en Normandie. Le problème, c'est qu'on reçoit des bombes.
Les bombardements alliés, hein,
Et oui, ce sont les bombes qu'on reçoit en 1944 des amis qui viennent vous libérer. Alors là, toutes les familles normandes en parlent. Mais ce n'est pas un élément structurant de la mémoire collective. Ça n'a aucun sens. Comment vous pouvez utiliser cet événement comme élément structuré et structurant d'une mémoire collective, d'une mémoire de groupe ? Non, ça reste un élément. L'exode, Vous avez 8 à 10 millions de personnes sur les routes. Si vous rajoutez ceux qui les accueillent, il y a 40 millions de Français. Toute la France est... Mais qu'est-ce que vous faites avec la peur, ouais, avec la fuite, avec la honte?
Il y a un courriel de Patrice. Comment considérer l'oubli, justement, notamment collectif, comme nécessairement vertueux? Les accidents nucléaires, dit Patrice, provoquent de l'émoi, puis sont très vite oubliés, savamment occultés par les lobbies liés à cette industrie. Bon, on va peut-être oublier les lobbies pour un instant, mais effectivement, ouais, sur le fait qu'on oublie ces événements, alors qu'ils nous choquent, qu'ils nous concernent, hein, au moment où ils ont lieu.
Est-ce qu'on en a besoin? Quel sens on a? Quel sens on lui donne? Quelle est son utilité sociale? Et là, si ces éléments sont indispensables à une construction identitaire, à un moment donné, ils s'inscrivent dans la durée.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de notre conversation autour de ce thème passionnant sur la mémoire et l'oubli. Et beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr. Les fashionistes, la féline à l'instant. Francis Stache, neuropsychologue, Denis Péchanski, historien, mémoire et oubli, donc aux éditions Le Pommier avec l'Observatoire B2V des mémoires. Beaucoup de messages pour vous, c'est un thème visiblement qui intéresse les auditeurs. À chaque fois qu'on fait une émission sur le sujet, Francis Stache, il y a tellement de choses à dire, on pourrait prendre chaque jour quasiment un angle différent. Ah oui, c'est très... très complexe et protéiforme, la mémoire. Comment justement, Denis Péchanski, qu'est-ce qui prend la place dans la mémoire collective? Qu'est-ce que vous avez observé là-dessus, sur ce qui vient sur le devant de la scène de cette mémoire?
Tout simplement déjà que la mémoire est historique. faut pas s'imaginer qu'on a une mémoire qui un jour s'installe et qui va durer pendant 30, 40, 50 ans, 100 ans, ad vitam aeternam. On a des éléments structurants de cette mémoire collective qui vont bouger. Alors on va prendre un exemple qui est bien connu, hein, surtout en France, qui est obsédé par cette période-là, la Deuxième Guerre mondiale. Bon, la mémoire française de la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1950, a été vraiment structurée par la figure du héros martyr, qui était au cœur de cette mémoire collective de la Deuxième Guerre mondiale. Et à partir des années 80, c'est encore une dominante, hein, il n'y a pas que celle-là, mais elle a été supplantée par la figure de la victime, et singulièrement de la victime juive. Donc on a un changement de ce que j'appelle de régime de mémorialité, d'appropriation de la mémoire du passé, différentielle suivant les périodes, qui donne des grilles d'analyse, des grilles d'interprétation. Et évidemment, toujours, après coup, on dit « Ah oui, mais ce dont on parle maintenant, on l'a occulté avant. » C'est pas qu'on l'a occulté, c'est simplement, enfin, sauf exception, hein, mais en général, ce que j'appelle une mémoire faible. Mmh. Et ensuite, une mémoire forte. C'est plus des ondulations que des rejets volontaires avec décision étatique.
Ouais. Vous parlez aussi de la confiscation de la mémoire, d'ailleurs. Hein. Mmh. Ces enfants qui ont été cachés, par exemple, pendant la guerre.
Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Ils sont cachés, des enfants juifs cachés pendant la guerre, ils survivent alors que leurs parents ou des parents sont morts dans les chambres à gaz. Donc leur propre discours, pour eux-mêmes, n'était pas audible. Et pour pouvoir rentrer par effraction, en quelque sorte, dans la mémoire collective, ils sont passés par l'hommage à ceux qui les ont sauvés. Donc, comme porte-parole d'une résistance cachée, qui est la résistance de sauvetage. Et c'est au nom de cette prise de parole qu'ensuite, et ça date des années 90-2000, hein, qu'ils ont pu prendre la parole pour dire « mais j'ai vécu ça ». C'est pas par hasard si Boris Cyrulnik là a parlé de cette période, de ces mémoires-là, maintenant. C'est pas simplement parce que il arrive à un âge avancé, on parle de son passé. Avant, il ne parlait pas de son histoire d'enfant caché.
Et il était à votre place il y a 3 semaines à peu près dans ce même fauteuil pour justement nous raconter cette histoire et cette mémoire. Y a-t-il péril en la mémoire, Francis Eustache? C'est une question que vous posez justement dans le livre. C'est un autre aspect que vous abordez, mais qui nous intéresse aussi de très près. Ce sont au fond les mémoires externes des technologies, hein,
exactement,
qu'on a à portée de main aujourd'hui.
Le titre du chapitre est exactement « Y a-t-il vraiment péril en la mémoire ?» Dans le sens, c'est l'aspect optimiste de la question, parce que je reste optimiste sur le devenir de la mémoire et le devenir de l'humanité, même si on est confronté là à un vrai problème, à savoir que les hommes ont toujours cherché à amplifier la mémoire, donc à créer des mémoires externes.
On a bien réussi.
Et on a de mieux en mieux réussi.
Oui.
Donc, et aujourd'hui, on est confronté par des mémoires externes qui fonctionnent tellement bien qu'elles fonctionnent par elles-mêmes. Et c'est une vraie réflexion que nous devons mener.
Il y a des enjeux.
Il y a des enjeux.
Éducatifs, éthiques.
Voilà, exactement, d'éducation. Je pense que c'est très important qu'il y ait cette prise de conscience. C'est également un des intérêts de cet observatoire B2V des mémoires, c'est de réfléchir à ces problèmes de société, les maladies de la mémoire, certes, mais également ce changement de la place de la mémoire, et notamment chez l'enfant, l'enfant d'aujourd'hui, qui naît dans un environnement hyper connecté, où il est hyper sollicité, beaucoup, beaucoup d'informations. Et donc, comment notre mémoire se modifie? Parce que notre mémoire, elle est différente du fait de cet environnement nouveau.
Et c'est un thème que vous abordez aussi dans ce livre, Mémoire et oubli. Polo nous dit ceci: on prétend qu'on ne peut pas avoir de souvenirs avant l'âge de 3 ans. Mon souvenir personnel certifié se situe à l'âge d'un an et demi. Qu'en est-il d'après les scientifiques?
Alors, je ne vais surtout pas contredire, mais tout dépend de la définition qu'on donne d'un souvenir. Notre cerveau n'est pas fait pour fabriquer de véritables souvenirs avant l'âge de 6, 7, 8 ans, et même au-delà. C'est vraiment quand on est adolescent qu'on commence à avoir une mémoire qui fonctionne un peu comme celle de l'adulte. Par contre, l'enfant plus jeune est très fort pour former des connaissances. On le voit, cet enfant de 18 mois, comment il apprend le monde qui l'entoure, c'est merveilleux, mais il va conserver en fait des bribes de souvenirs. Ce ne sont pas des souvenirs qui sont construits comme le souvenir de l'adulte, avec le fait qui est daté, qui est situé dans l'espace, qui correspond à certaines émotions qui sont liées. L'enfant mémorise évidemment beaucoup de choses, mais pas un souvenir tel qu'il a été construit chez un adulte.
Denis Péchanski, un message pour vous de Lanja. Il nous dit ceci. Monsieur Péchanski, vous faites partie du comité historique du futur mémorial du camp de Rivesal, qui porte toutes les cicatrices du XXe siècle. Comment ce comité travaille ? Pourquoi les populations concernées, nombreuses dans le département des Pyrénées-Orientales, ne sont pas consultées ? Comment participer et éviter la réécriture de l'histoire à visée politique ?
On va essayer d'éviter, mais ce projet de musée mémorial a été porté par Christian Bourquin, qui est décédé malheureusement il y a quelques mois, qui était président du conseil général des PO et ensuite président du conseil régional. Et c'est un projet à dimension, moi je trouve très humaniste, puisque à Rivesaltes se sont retrouvés pendant la guerre des Espagnols, des Juifs, des Tziganes, après la guerre, même les prisonniers de guerre allemands, puis ensuite la guerre d'Algérie, les Harkis. 10 000 harkis qui sont retrouvés là entre 62, 64 et même au-delà. Donc on a effectivement tout le second XXe siècle qui est raconté en un même lieu, ce qui d'ailleurs crée des difficultés. Mais la vision humaniste, c'est que les uns et les autres vont apprendre l'histoire des autres. Et ça me semble essentiel.
Alors, il y a des consultations mémorial,
il y a même une commission qui s'appelle la commission mémoire, qui effectivement est formée des représentants des différentes communautés qui sont concernées par le sujet. De même qu'il y a une commission pédagogique, il y a une commission, un comité historique. Enfin, bon, bien sûr, alors on se dit toujours quand on n'est pas dedans qu'on nous oublie. J'espère qu'il contacte les responsables du musée mémorial. Il n'y a aucun problème, on est à l'écoute. Mais voilà, l'important, c'est que c'est aussi la construction d'un lieu de mémoire. Un lieu de mémoire qui rend compte de mémoire plurielle. Je peux vous dire que là, pour un historien, ce défi-là, il n'est pas maigre.
Qu'est-ce que vous apporte l'histoire, Francis Eustache, dans vos travaux sur la mémoire, vous, en tant que neuropsychologue ? Parce qu'on peut comprendre ce qu'apporte la neuropsychologie pour l'historien. Dans ce sens-là, à vous, alors ?
Alors, l'histoire, déjà, c'est une nouvelle dimension. Les liens entre mémoire collective, mémoire individuelle. Ouais. Et puis, ce que décrivait très très bien Denis tout à l'heure, par exemple, pour un Normand, cette situation de décalage entre le grand récit, bon, ce héros martyr, et puis la réalité des Normands, qu'étaient ces bombardements alliés qui étaient en quelque sorte un non-sens, et le fait de savoir, le fait de savoir que l'histoire, elle s'est pourtant construite comme ça. Je pense que ça a construit des hommes et des femmes particulières. Et je pense même que les enfants de ces hommes et de ces femmes portent encore cette espèce de décalage, voyez, entre cette mémoire historique et cette mémoire individuelle. Et ça aussi, c'est un champ d'exploration scientifique qui me paraît de grande importance.
Ginette nous dit ceci, il m'a été enseigné que la mémoire fonctionnait par couches successives, ce qui expliquait que certaines personnes âgées, perdant l'accès aux dernières, se remémoraient des souvenirs très lointains, voire enfantins. Est-ce toujours considéré comme vrai ? Ça a été une des grandes découvertes, justement, sur la mémoire.
Ça a été une des grandes découvertes qui date maintenant de 150 ans et qui continue toujours d'être explorée. C'est comment la mémoire se construit au fil du temps et avec un changement de statut. Alors, c'est vrai pour la mémoire individuelle, c'est vrai pour la mémoire collective. Un changement de statut, des processus de consolidation, de sémantisation, à savoir que notre mémoire ne sont pas différentes boîtes qui sont étanches les unes par rapport aux autres, mais c'est au contraire des transformations, des changements de statut, des représentations mnésiques au fil du temps. Et effectivement, l'ancien devient beaucoup plus résistant que le nouveau, parce qu'il accède à un statut particulier.
Merci infiniment à tous les deux. Mémoire et oubli, Francis Eustache, avec donc Denis Péchanski, Bernard Stiegler, et puis également Jean-Gabriel Ganassia et Robert Jaffard. C'est aux éditions Le Pommier. On peut signaler également cette exposition, Denis Péchanski, La collaboration, aux Archives nationales de Paris. C'est jusqu'au 2 mars prochain, donc on a le temps d'aller voir cette exposition dont vous êtes le commissaire. Merci infiniment à tous les deux.